France Inter.
Aujourd'hui, les dérives du système agroalimentaire racontées par
Karine Jacquemart, directrice générale de Foodwatch France.
France Inter, La Terre au carré, Mathieu Vidard.
L'alerte ne vient pas d'un laboratoire secret ni d'un centre de crise. Elle est arrivée ce lundi sur le bureau du Premier ministre, puis sur ceux des ministres de la Santé, de l'Agriculture et de l'Écologie, dans un courrier signé par la Conférence nationale des médecins libéraux de toute la France. Le ton du texte est grave, puisqu'ils écrivent que le cadmium est une bombe sanitaire. L'article du Monde, signé Stéphane Mondard, publié ce matin, donne froid dans le dos. Moins connu que le plomb, le mercure ou l'arsenic, le cadmium est un métal lourd classé cancérogène, certain pour l'humain. Et il est présent dans le pain, dans les pâtes, dans les pommes de terre ou dans les céréales du petit déjeuner, partout, chez vous, chez moi, chez nos enfants. Ce cadmium vient des engrais phosphatés que l'agriculture française répand depuis des décennies. Il s'est infiltré dans les sols, puis dans les cultures, puis dans les corps, silencieusement et systématiquement. Dans les cabinets médicaux, les généralistes voient de plus en plus de cas de cancer du pancréas. Une explosion statistique, un cancer redouté car souvent trop tardif. En 30 ans, son incidence a été multipliée par 4. Et il ne s'agit pas simplement du vieillissement de la population. Santé publique France soupçonne un lien direct avec le cadmium. Les enfants sont les plus exposés, ceux qui mangent chaque jour leurs 20 grammes de céréales industrielles au petit déjeuner, ceux qui mangent des pommes de terre ou des coquillettes. Leur taux d'imprégnation dépasse les seuils critiques, parfois jusqu'à 15 fois plus que les petits Danois. D'où vient ce poison ? Eh bien, des roches phosphatées principalement importées du Maroc, riches en cadmium. La France en est les premiers consommateurs européens. Et malgré les alertes de l'ANSES, malgré les normes européennes en cours de renforcement, rien n'a encore changé dans les rayons des supermarchés, ni dans les épandages agricoles. Il faut dire que le cadmium ne fait pas de bruit, il ne tue pas tout de suite, il ronge, lentement. Il s'accumule dans le foie, les reins, les os, en déclenchant des maladies invisibles à l'œil nu. Ce que demande la communauté médicale aujourd'hui est simple et radical. Changer nos pratiques agricoles, réduire les engrais chimiques, soutenir le bio, former les médecins, protéger les enfants. Du bon sens pour se mettre à l'abri de cette bombe lente mais bien réelle qu'il est encore temps de désamorcer. Une bombe parmi beaucoup d'autres liées à l'agro-industrie. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Bonjour Karine Jacquemart.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous publiez aux éditions Payot les dangers de notre alimentation, dérives et conséquences du système agroalimentaire sur nos vies. Et dans les premières lignes de cet ouvrage, vous évoquez votre colère. Une colère que vous avez de plus en plus de mal à réprimer face aux violences décomplexées d'un système qu'on nous impose, en particulier dans nos assiettes. En lisant cet article du Monde ce matin concernant le cadmium, donc ce métal lourd, on ressent aussi beaucoup de colère parce que c'est un nouvel exemple qui illustre une mécanique agro-industrielle toujours à l'œuvre et absolument intolérable.
Oui, ce qui est intolérable, c'est qu'on nous impose un système qui nous expose à des risques pour la santé qui sont évitables, qui ne sont pas une fatalité. Aujourd'hui, le système agricole et alimentaire, que du coup j'ai voulu décrypter pour aussi redonner ce pouvoir aux gens qui est l'information et ce décryptage, c'est un système qui laisse sur le carreau un agriculteur et une agricultrice sur 6 qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. À l'autre bout de la chaîne, c'est des millions de Français, de Françaises qui n'accèdent pas à une alimentation saine et durable et qui sont confrontés à la précarité alimentaire. Donc c'est totalement insoutenable. Le tout détruisant le vivant, on va en parler, la biodiversité, notre environnement, et même, j'ai envie de dire, avec des risques démocratiques et de liens sociaux extrêmement forts, puisque c'est un système qui broie et qui ne laisse pas le choix. Et le cadmium, c'est une preuve de plus aujourd'hui, malheureusement on en a très régulièrement, d'une contamination qui effectivement ne sert qu'à une petite poignée qui fait des bénéfices sur ce système verrouillé et qui est au détriment de la grande majorité de la population et de l'environnement. Donc il faut poser le constat, le dénoncer et bonne nouvelle, voir comment on peut changer les choses et c'est ce que je veux partager aussi.
Car il y a effectivement des solutions, il y a des voies de sortie et des choses aussi tout à fait intéressantes hein, puisqu'elles sont liées aussi à la faculté que nous avons de de pouvoir peser effectivement face à ces enjeux majeurs. Il y a plus de 20 ans, vous avez décidé de vous engager pour plus de justice sociale, c'est ce que vous racontez toujours dans l'introduction du livre, et vous avez choisi de vous battre sur le fond d'une alimentation saine, digne, abordable. Ça, c'est le cœur de votre action à Foodwatch. Hein.
Oui, et surtout, en fait, et puis on travaille avec beaucoup d'autres acteurs pour juste remettre ce qui est l'évidence au milieu de l'équation, et c'est en fait même un droit. C'est un droit fondamental pour toutes et tous d'accéder à une alimentation saine, choisie, c'est important, durable, qui permette d'avoir des prix justes pour les producteurs et productrices et abordables pour les consommateurs et consommatrices. En fait, on cherche à nous opposer.
Ça, c'est le système idéal.
C'est ce à quoi il faut revenir. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas là, ça ne m'amuse pas d'avoir à critiquer ou à me battre pour ce qui doit être un droit fondamental et une évidence. Donc, rappelons la vision qui est en fait positive de ce qui devrait être et ce pourquoi, du coup, nous nous battons. Et pour cela, il faut en passer, c'est douloureux, mais il faut le faire par les enquêtes, le diagnostic, le constat de ce système aujourd'hui qui est un système oppressif et complètement destructeur.
Et très soutenu aussi, c'est tout le problème.
Ah ben c'est la complicité de l'État qui non seulement laisse faire cette industrie agroalimentaire et la grande distribution qui en fait contrôle le marché. Ce qu'il faut bien comprendre en fait, c'est que ce système alimentaire, il est très verrouillé et agricole aussi. Il est très verrouillé. Pourquoi ? Parce que d'abord, on a enfermé nos agriculteurs, agricultrices dans un modèle d'agriculture intensive depuis des décennies. Donc encore une fois, mon message, vraiment, il n'est pas contre les agriculteurs, agricultrices. Il est contre ceux qui refusent de le changer pour une transition agroécologique. Mais il faut accompagner les agriculteurs, agricultrices. Mais aujourd'hui, on a un système qui est totalement biberonné aux intrants chimiques. Et en plus, on nous ment. Donc, on nous ment comment ? On nous ment en nous racontant, vous avez entendu ça, Mathieu, on nous parle tout le temps de souveraineté alimentaire. Mmh. Vous comprenez, il y a eu la guerre en Ukraine, le contexte géopolitique, donc quand même, la souveraineté alimentaire, c'est important, donc vous comprendrez bien qu'il ne faut surtout pas freiner la production, et donc il faut même produire davantage, être encore plus en souveraineté alimentaire, et donc utiliser encore plus de pesticides. C'est un double mensonge.
Sauf qu'on exporte énormément.
C'est un double mensonge, parce que la souveraineté alimentaire, la définition des Nations Unies, qui est très prometteuse, c'est le droit des populations à définir comment elles se nourrissent, comment elles produisent leur alimentation, et quelle alimentation elles veulent. C'est de la démocratie alimentaire, le contraire. Et ensuite, le deuxième mensonge, c'est quoi ? C'est que si, effectivement, ils veulent parler d'autonomie alimentaire, d'abord, on exporte, on soutient une agriculture exportatrice.
Large part de ce que nous produisons sur le territoire.
Parce que ça enrichit des grandes entreprises qui exportent, plutôt que de soutenir une production de nos paysans, paysannes qui sont en train de réduire vraiment de façon dramatique. Mais surtout, même s'ils veulent parler d'autonomie alimentaire et arrêter de détourner ce concept de souveraineté alimentaire. L'agriculture intensive aujourd'hui biberonnée aux pesticides et engrais de synthèse dont on parlait aussi à l'instant avec le cadmium. Ce sont principalement des importations. On importe la plupart de ces produits. En quoi on est autonome ? Donc en fait, on est dépendant des importations de ces produits, dont d'ailleurs le gaz russe n'est pas pour rien. Mmh. Au lieu de se rendre indépendant et du coup de gagner en souveraineté alimentaire. Donc c'est une petite poignée qui en fait cherche à diviser pour mieux régner. Opposer production agricole et protection de l'environnement, ça n'a pas de sens, mais ça ne sert que ceux qui ne veulent pas qu'on change de système.
Et donc, évidemment, vous le disiez tout à l'heure, c'est aussi un système qui est soutenu par l'État. On voit en ce moment la ministre de l'agroécologie, Annie Genevard, qui s'accroche à cette loi Duplomb, qui défend le retour de certains néonicotinoïdes, et qui d'ailleurs remet en cause la véracité de la science. C'est-à-dire qu'elle dit que la science ne dit rien sur les effets délétères de ces pesticides. Donc on est dans un système qui est quand même assez étonnant, non ?
Ouais, c'est plus qu'étonnant. Là, il faut vraiment pas laisser faire. Enfin, c'est choquant. On est dans une trumpisation des discours politiques, même en France aujourd'hui. Annie Genevard, la ministre de l'Agriculture, on l'a déjà reprise quand, devant le Sénat début mars, elle s'est permise de critiquer aussi la science à propos du Nutri-Score, en disant en gros, devant le Sénat, je la cite pas mot pour mot, mais c'est ce qu'elle disait, moi je sais pas très bien cet algorithme scientifique, quelles sont mes marges de manœuvre. On a immédiatement, avec Foodwatch, lancé une pétition qui a eu 20 000 signatures en 48 heures pour dire que ce n'est pas acceptable de remettre en question ce travail de scientifique indépendant et qui vous êtes pour remettre en question la science. À un moment donné, les politiques doivent s'appuyer sur la science pour enfin protéger la population. Du coup, elle est revenue sur sa position. Mais là, sur les pesticides, c'est encore pire. Non seulement on n'arrive pas à faire aujourd'hui. On n'arrive pas encore. Mais encore une fois, on va y arriver parce qu'on ne va pas lâcher. Mais non seulement on n'arrive pas encore à faire interdire l'évidence des pesticides dangereux pour la santé et l'environnement qu'on retrouve, on va parler de Nestlé, qu'on retrouve même dans les nappes les plus profondes des eaux soi-disant minérales. Non seulement on n'arrive pas à faire interdire le glyphosate, je raconte la saga du glyphosate et les stratégies des lobbies dans le livre. Et encore une fois, on y arrivera. Mais ils ne font que gagner du temps et nous en faire perdre. Mais en plus, là, la loi du plomb, c'est carrément, on n'a plus aucun complexe et on va même réintroduire des pesticides et des néonicotides dangereux pour la santé et l'environnement qu'on avait interdits. Mais en fait, il faut arrêter ce climat d'impunité. Et c'est pour ça qu'on peut haut et fort dire « ça suffit ». Et vous avez raison de le dire, cet exemple-là n'est pas acceptable. Et quand on voit que ce sont les médecins et les scientifiques, même avec scientifiques en rébellion, qui s'organisent pour dire « mais en fait, on n'en peut plus, on est obligé de devenir des lanceurs d'alerte nous-mêmes parce que ce que vous faites est vraiment une mise en danger de la population », alors je crois que le message est clair, ça suffit.
Karine Jacquemart, ce que vous dites dans ce livre, c'est que tout est organisé aujourd'hui pour que le consommateur choisisse le produit le plus mauvais pour sa santé. Comment ça fonctionne, cette petite mécanique, alors finalement?
C'est ça qui est fou aussi, c'est effectivement quand on regarde bien le système, et les enquêtes le démontrent, en fait 70% des achats alimentaires aujourd'hui en France sont encore faits dans les supermarchés. C'est pas non plus un hasard, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup de petits commerçants qui ont été supprimés, et on n'a pas toujours le choix.
70%.
70%. Ouais. Et 80% de ce marché alimentaire dans les supermarchés est contrôlé par les 5 principales enseignes. De la grande distribution, qui, vous le voyez bien, sont souvent sur les plateaux télé en train de dire « nous sommes les alliés des consommateurs et c'est pour ça que nous mettons des produits pas chers ». Des produits pas chers pour les consommateurs, ça n'a jamais voulu dire d'en profiter pour ne pas rémunérer les producteurs. Je rappelle qu'il faut l'équation. Mais surtout, ils orchestrent volontairement un marché à deux vitesses. Pourquoi ? Je vous donne 3 exemples rapidement. Premièrement, avec Foodwatch, on a fait une enquête sur le sucre qu'on a publié mi-janvier. Sur 400 produits, on a regardé 12 catégories de produits. Premier constat, on le sait, mais on l'a prouvé une nouvelle fois, et il faut que ça s'arrête, il y a trop de sucre ajouté dans tous les produits, y compris des boîtes de conserve de petits pois. Deuxième constat, on a comparé dans chaque catégorie de produits la teneur moyenne de sucre sur les 5 produits les moins chers par rapport aux 5 produits les plus chers. Systématiquement, dans les 12 catégories, les produits les moins chers étaient plus sucrés que les produits les plus chers. Vous avez un budget limité, on vous fait croire qu'on vous met des produits pas chers, sauf que c'est des produits qui sont moins bons pour la santé. Deuxième exemple, on vient juste, il y a une dizaine de jours là, de publier une nouvelle enquête avec d'autres associations.
Sur les promos.
On a regardé plus de 5000 promotions. Plus de 5000 promotions. Sur ces 5000 promotions, pareil, des principales grandes enseignes de la grande distribution, 66% flèchent sur des produits qui sont contraires aux recommandations de santé publique.
Donc c'est ce qu'on met d'abord en avant, hein, quand on fait une promo, ces produits-là.
Ça veut dire en fait, on vous met dans les rayons des produits pas chers, mais en fait, sauf qu'on ne vous laisse pas le choix, et quand vous avez un budget limité, on vous oriente vers des produits qui sont moins bons pour la santé. Et derrière, on a une épidémie de maladies chroniques, c'est l'Organisation Mondiale de la Santé qui le dit, et des coûts colossaux pour la
santé,
société.
Hein. Et le troisième exemple, très rapidement.
Le troisième exemple, parce qu'il est important, parce que c'est là aussi où on peut montrer que le gouvernement bloque, et c'est inacceptable, c'est sur les additifs à base de nitrite et nitrate. Vous savez, ces additifs qu'on retrouve dans la charcuterie, notamment, et qui rendent le jambon rose, parce que ce sont des conservateurs. Ce que je raconte avec la saga des nitrites, c'est quoi ? C'est que il y a des études scientifiques qui prouvent que c'est dangereux pour la santé, cancer colorectal notamment. Il y a la possibilité pour l'industrie, on voit bien Fleury Michon, Herta, Madrange et compagnie, qui vous vendent du sans nitrite. Donc ils ont conscience du problème et surtout ils savent faire sans nitrite. Mais ils ont bloqué un projet de loi pour interdire ces additifs dangereux. Pourquoi ? Parce que ça leur permet d'avoir un marché à deux vitesses, une niche plus chère pour les gens qui ont les moyens. Et si vous n'avez pas les moyens, c'est pas très grave que vous soyez confronté à des risques de cancer colorectal, n'est-ce pas ?
Mais il n'y a pas de fatalité, il y a même des solutions pour tenir tête à ce système dominant. On en parle avec vous dans un instant. Karine Jacquemart, vous êtes notre invitée autour de ce livre « Les dangers de notre alimentation », c'est chez Payot.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'est pas très bon, hein.
C'est même très mauvais.
Oui. Maintenant, je suis seulement le gérant et toute la journée, je sers de la merde.
Hein? Eh oui. Mais au relais du cigale, c'en était déjà.
Oui, mais c'était moi qui la faisais.
Hein? Parce que là, c'est pas vous?
Ah non! Tous les matins, c'est l'usine du grand patron qui m'envoie tout. Alors, c'est bien dégueulasse toute cette bouffe-là, hein?
On ne s'y habitue pas.
Oh, il faudra bien. Il n'y aura plus que ça bientôt.
Extrait de L'aile ou la cuisse de Claude Zidi, Karine Jacquemart, vous qui êtes directrice générale de Foodwatch France et qui publiait donc chez Payot les dangers de notre alimentation, les dérives, les conséquences de ce système agroalimentaire sur nos vies. Alors, on va parler de lutte parce que c'est important. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font un constat en ce moment assez désespéré et qui ont besoin d'outils aussi pour rentrer en résistance. Hein, parce que c'est ça dont il s'agit sur le front de nos assiettes et de la façon dont nous nous nourrissons aujourd'hui. C'est quoi les clés aujourd'hui? Parce que vous avez bien étudié la question. Vous avez plusieurs propositions à différentes échelles, d'ailleurs collectives et individuelles. Donc, il faut qu'on en parle parce qu'on a besoin de ça, je crois, en ce moment pour avancer sur ces terrains.
Non, mais absolument. Et puis aussi parce que, en fait, il n'y a aucune raison qu'on accepte l'inacceptable. Et le message d'espoir que je veux vraiment faire passer aux gens, c'est on est plus puissant que ce qu'ils veulent nous faire croire.
Donc, et chaque voix compte. Hein,
c'est oui, pas... et chaque voix compte. Donc,
qu'elle soit dans les urnes ou ailleurs,
d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et du coup, il y a deux grands champs, pour simplifier, où je pense qu'on peut agir. Le premier, c'est quand même face à ce constat, la violence, les discriminations de ce système qui est imposé par une poignée, encore une fois. Il faut dénoncer, il faut enquêter, dénoncer et faire changer les choses. Et je vais développer ça. Et après, on pourra parler aussi de, au-delà de ce système et de faire changer cette mainmise de l'industrie agroalimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire à côté? Et qu'est-ce qu'on peut faire à côté sur la question de la démocratie alimentaire, d'un meilleur accès à l'alimentation, mais plus largement, parce qu'en fait, quand moi je vous parle d'alimentation, c'est un prétexte pour illustrer les rapports de force qui se passent dans notre société. Ce qui est magnifique avec l'alimentation, c'est que c'est à la croisée des chemins. Environnement, pouvoir d'achat, santé publique et même lien social. Donc on peut en faire quelque chose de formidable.
C'est des luttes qui vont ensemble.
C'est des luttes qui vont ensemble, tout est lié.
Et qu'il faut mobiliser
absolument,
d'ailleurs
ensemble. Absolument, tout est lié. Et d'ailleurs, le premier des mots, moi, quand j'ai envie de vous parler solution, j'ai envie de vous dire trois verbes. Hein, réconcilier, réinventer et réenchanter. On va garder ça pour la dernière partie. Mais pourquoi réconcilier? Parce que, justement, il y a une stratégie là, de diviser pour mieux régner. On oppose...
Mais entre qui et qui, oui.
On oppose consommateurs et agriculteurs. La petite musique, vous entendez, si la malbouffe, c'est quand même parce que des gens, en gros, choisissent de manger, d'acheter ces produits, alors qu'on ne leur laisse pas le choix. Mais c'est aussi, c'est parce que les consommateurs veulent des produits pas chers qu'on ne rémunère pas bien les producteurs. Mais c'est totalement faux. C'est l'opacité des marges et de la construction des prix au milieu. Donc, diviser pour mieux régner. Diviser pour mieux régner en opposant aussi, du coup, production agricole, agriculteurs et protection de l'environnement. Enfin, les écolos terroristes seraient évidemment contre la production agricole. Enfin, ça n'a aucun sens. Donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est réconcilier. Mais avant ça, le premier point, c'est David contre Goliath. Voilà. Face à ces géants, et ses responsables politiques. Et je veux nuancer, il y a beaucoup, moi je rencontre beaucoup de gens à l'Assemblée nationale, dans les administrations, dans les ministères, qui veulent faire bouger les choses. Mais il y a un verrou au niveau de là où les décisions se prennent. Et là, on ne va pas du tout dans le bon sens. Donc, pour faire bouger les choses, il faut qu'on leur dise, mais on vous voit. Parce que la deuxième stratégie, c'est pas vu, pas pris. Donc, les multinationales se croient au-dessus des lois, la grande distribution se pavane en disant on est les alliés et croit que ça ne va pas se voir, qu'en fait, ils orchestrent un marché qui crée de la précarité alimentaire et aggrave les problèmes de santé. Et les responsables politiques ne font absolument pas leur rôle qui est de protéger, encore une fois, mais je parle d'un droit fondamental, de protéger un droit fondamental à l'alimentation et la santé publique.
C'est l'intérêt général, hein,
exactement,
tout simplement.
C'est l'intérêt général, tout simplement. Donc on remet l'intérêt général au milieu de l'équation et surtout, on se bat. On se bat comment? On se bat en enquêtant, en dénonçant, en disant on vous voit. Foodwatch, aujourd'hui, en à peine 10 ans, c'est 500 000 abonnés à la newsletter.
Oh, mais quels sont vos moyens, d'ailleurs, pour enquêter? Parce que vous n'avez pas de... On ne vous finance pas?
Ouais, c'est ça. On refuse. En fait,
vous
on est un
contre-pouvoir.
Public. Chaque mot compte. On est un contre-pouvoir citoyen, 100% indépendant. On n'a aucun argent public, on n'en demandera jamais, aucun don d'entreprise.
Donc avec quel argent vous menez
c'est
vos
les citoyens,
enquêtes?
Les citoyennes qui, voilà, qui font ce qu'ils peuvent, qui donnent 5, 10 euros, 15 euros par mois ou des dons ponctuels quand ils ne peuvent pas assurer dans la durée. En fait, c'est ce que je veux dire aux gens. C'est tout seul, on peut pas changer les choses. En tout cas, pas à ce niveau-là, pas contre ce système-là. Mais si on se serre les coudes, on peut. Et ce qu'on fait, c'est que déjà, en dénonçant, en faisant du name and shame, on leur fait peur. Parce qu'on l'entend dire, en fait, par des
donc
gens
dénoncer,
qui nous le disent,
hein, c'est ça, citer...
C'est ça, mener des enquêtes. On n'est pas dans la posture, en fait. On est sur des trucs hyper concrets. Quand je parlais de l'enquête sucre, c'est une enquête sur 400 produits, c'est des résultats, c'est des marques qui sont affichées. Donc c'est aussi mettre un coup de projecteur sur les marques, sur les pratiques abusives et dire on vous voit, on vous a vu profiter de l'inflation, on vous voit faire des arnaques sur l'étiquette. Ce manque de transparence n'est pas possible. Et surtout, là, le dernier exemple qui, je pense, peut nous donner du pouvoir et de l'espoir, c'est l'exemple des eaux en bouteille et de Nestlé Waters.
Alors, bah, racontez-nous le rôle que vous avez eu, parce qu'il y a eu évidemment la cellule enquête de Radio France aussi qui a joué un rôle majeur là-dessus. Mm-hmm. Vous avez travaillé ensemble. C'est une coalition finalement qui permet d'aller plus loin dans...
C'est une complémentarité des rôles. En fait, ce qui s'est passé là, c'est que Full Watch n'est pas à l'origine de l'enquête, donc c'est vraiment les journalistes de Radio France et du Monde qui ont publié en février 2024 les résultats d'une enquête qui révélait pour la première fois que ça faisait des années que Nestlé Waters utilisait des filtres illégaux sur certains de ses forages. Il y a une autre entreprise qui s'appelle Sour Salma. Immédiatement, parce que Foodwatch a cette capacité et on a comme objectif de casser le climat d'impunité sur ces multinationales, comme on l'a fait dans le scandale Buitoni en 2022, vous vous en rappelez, les pizzas contaminées, le scandale Kinder, c'était déjà Nestlé Buitoni d'ailleurs, comme on l'a fait à ce moment-là, eh bien, tout simplement, on a décidé immédiatement de porter plainte. Je vous fais la version courte. On a porté plainte au pôle santé publique du parquet de Paris. Contre Nestlé, contre Sour Salma, et aussi en pointant du doigt ce qui apparaissait déjà comme des responsables de l'État qui avaient regardé ailleurs et mis sous le tapis cette fraude massive. On a appris quelques mois après que notre plainte était délocalisée à Épinal parce qu'il y a plusieurs forages là-bas d'eau de Nestlé Waters. Nestlé Waters, je rappelle que c'est Vittel, Perrier et Par et Contrex. Et on a appris, juste avant l'été, par un appel de notre avocat, on nous a demandé à combien vous estimez le préjudice parce qu'il y a une transaction financière entre le tribunal d'Épinal et Nestlé.
Une transaction, c'est-à-dire qu'il y a une proposition financière.
Ça s'appelle une cégip, je le raconte dans le livre. C'est ça.
Pour dire, mettre un terme à l'histoire, finalement.
C'est ça, pour dire, bon, ben voilà, Nestlé est prêt à payer des compensations aux plaignants et puis on n'en parle plus, quoi. Voilà. Ce qu'on a dit, c'est extrêmement clair, et d'ailleurs on l'a communiqué, et on a fait un communiqué de presse qui est sur notre site en septembre, on a dit mais il en est hors de question, et on a écrit au tribunal, on a dit il en est hors de question, d'abord Foodwatch n'acceptera jamais d'argent de l'industrie agroalimentaire, encore moins dans ce genre de cas, le préjudice n'est pas financier, le préjudice c'est un climat d'impunité où ces multinationales, les Ferrero, Lactalis et... Nestlé se croit au-dessus des lois avec le regard complaisant, voire complice, de l'État. Du coup, on a refusé l'argent de Nestlé et on a reporté plainte en septembre avec partie civile. Et j'ai une bonne nouvelle, voilà, pour les gens à qui je veux dire on a le pouvoir. C'est que depuis du coup, le mois de février 2025, un juge d'instruction a bien été nommé. Notre plainte, cette fois, elle n'a pas été délocalisée. Et il y a bien une enquête judiciaire qui est en cours.
Et ça, c'est important, évidemment.
Ça suit son cours. Ça veut dire que si on avait lâché... En fait, Nestlé et les responsables de l'État impliqués ne seraient pas dans le collimateur de la justice. Or, on n'a pas lâché, et il y a bien une enquête, et j'espère bien qu'elle ira jusqu'au bout, et qu'on aura enfin des sanctions dissuasives pour dire « on vous voit, et il faut arrêter ces pratiques abusives, personne n'est au-dessus des lois ».
Donc, on voit là plusieurs forces, évidemment, hein, Radio France, Le Monde, votre organisation, qui mène l'enquête, qui ensuite font des poursuites. Ça, c'est absolument essentiel aujourd'hui, c'est-à-dire fédérer les énergies, et documenter aussi, évidemment, parce que sans documents, sans preuves, sans éléments, on peut pas avancer. Il suffit pas juste d'être là.
Bien sûr, mais d'ailleurs ce que fait Foodwatch et ses alliés, parce qu'encore une fois, on bosse avec beaucoup d'autres organisations de la société civile. Et en tout cas, on peut voir sur nos communiqués de presse, il y a toutes les sources. C'est-à-dire que justement, dans un climat aujourd'hui où même des ministres s'arrogent l'espèce de liberté de contester la science et de, il faut absolument être basé sur des faits. Et moi, ce qui me met à la fois en colère mais qui me donne confiance, c'est que justement tout ce qu'on demande. Tout ce qu'on exige, en fait, qui devrait être le béaba, c'est basé sur des faits. C'est basé sur des études scientifiques, c'est basé sur des recommandations de l'OMS, c'est basé sur des choses qui sont factuelles et qui sont un droit fondamental.
Karine Chatkmar, est-ce que vous pourriez porter plainte, justement, contre un représentant de l'État qui ne défend pas les citoyens, qui n'est pas dans l'intérêt général, précisément, et qui, ça se voit comme le nez au milieu de la figure, préfère défendre des intérêts privés, qui ne sont que des intérêts d'une petite partie, mais évidemment, qui pèsent très très lourd?
C'est déjà le cas. En fait, c'est déjà le cas avec les deux plaintes qu'on a redéposées en septembre, avec constitution de partie civile, une dans le cas Nestlé Waters, une dans le cas Sour Salma, et où clairement, dans les infractions qu'on a listées, donc il y a tromperie, il y a fraude, il y a etc., mais il y a aussi la question de santé publique, hein, qui n'est pas totalement écartée, on a évidemment pointé du doigt les responsabilités qui continuent à être mises à jour par les journalistes de Mediapart aussi, Radio France et Le Monde encore une fois.
Vous portez plainte nommément ou pas ?
Non, on porte plainte. En fait, nous, c'est pas nous qui avons mené l'enquête. Et parfois, c'est nous qui menons l'enquête. Et là, on va plus en détail. Là, la plainte est quand même très, très élaborée. Il y a aussi des lanceurs d'alerte qui nous contactent parce qu'en fait, les gens en ont marre. Et c'est ce que je veux dire aussi à l'industrie agroalimentaire et aux géants de la grande distribution et aux responsables politiques. Préparez-vous parce qu'en fait, les gens en ont marre. Donc, comme là maintenant, on s'organise pour, de façon non violente, mais déterminée et factuelle, venir vous tenir tête et exiger des changements, il va falloir changer de, changer de cap. Donc, on n'a pas mis les noms en question. Enfin, les noms, ils sont dans la presse. Et ce qu'on sait des juges, c'est qu'ils sont en train de mener leurs enquêtes. Et en plus, il y a eu la commission d'enquête du Sénat en parallèle. Donc là, on ne peut plus mettre le truc sous le tapis, quoi. Et la complémentarité des rôles entre les organisations de la société civile et les médias, c'est très important. On n'est pas les mêmes, donc voilà, mais on est complémentaires. Parce que si, effectivement, il n'y avait pas eu cette enquête, on n'aurait pas pu nous jouer notre rôle d'association de défense des consommateurs. Et à contrario, quand on publie des enquêtes, si elles ne sont pas relayées, elles vont faire moins de bruit. C'est l'image de marque de ces responsables politiques, et surtout qu'il y a des élections municipales en 2026, donc il ferait bien de faire un peu attention. C'est l'image, en fait, et à un moment donné, de les obliger à être redevables. Ça, on vous voit, c'est le message qu'on leur envoie.
Et il y a des talons d'Achille. Hein, donc,
bien sûr.
Karine Jacquemart, vous êtes la figure visible de Foodwatch France, et encore plus depuis la sortie de ce livre, qui fonctionne très très bien, qui a un écho très important auprès des citoyens, des dangers de notre alimentation. Est-ce que vous recevez des menaces ou pas ?
Non. Alors d'une part, je ne reçois même pas de critiques, et on fait bien exprès de la part de qui que ce soit, de nos cibles, parce qu'on leur dit tout simplement bah, vous devez protéger la santé publique, vous devez arrêter de mettre dans les rayons des produits dangereux pour la santé, l'État, vous devez arrêter les... Donc en fait, tout ce qu'on demande est tellement justement sourcé, factuel et basé sur le droit, que personne ne peut critiquer en fait ce qu'on demande, et c'est pas par posture, c'est pas idéologique, donc déjà, il n'y a pas de critique en fait,
enfin,
parce que c'est pas critiquable.
Regardez ce que fait Claire Nouvian, qui a exactement la même démarche que vous, c'est-à-dire que c'est extrêmement documenté, extrêmement sourcé, on voit ce qui lui arrive.
Hein.
C'est-à-dire que face au lobby de la pêche industrielle, aujourd'hui, on vandalise la porte d'entrée de son appartement, avec des menaces à répétition.
Tout à fait. Et du coup, je voulais en venir là. Déjà, c'est imprenable, en fait. Et c'est bien pour ça qu'en fait, il ferait mieux, d'ailleurs, de ne pas s'en prendre à nous, parce qu'ils ont beaucoup plus à perdre qu'à y gagner. On voit bien que Nestlé se cache. Hein. Ils font pas trop les malins sur les plateaux télé pour s'expliquer. Ils s'expliquent surtout pas. Et ensuite, non, on n'a pas encore reçu de menaces, mais c'est vrai qu'on s'attaque à des intérêts financiers colossaux.
Bah oui.
Et c'est vrai aussi que dans le livre, je vais encore plus loin pour le coup, en nommant même des responsables politiques qui ont des comportements tout à fait inacceptables et irresponsables, et il est bien question de ne pas les laisser faire. Donc je n'ai pas reçu de menace à ce jour, mais effectivement je suis en solidarité totale avec Claire, et tous les militants et militantes et les féministes se font par exemple insulter, reçoivent des menaces tous les jours. Encore une fois, tout est lié, toutes les violences, tous les droits, donc serrons-nous les coudes, et il est hors de question d'accepter ça. Ça montre quand même qu'on est face à un système que je veux croire à bout de souffle. Parce que vraiment, en arriver là, quand on demande simplement d'arrêter de détruire le vivant duquel on dépend tous, et de respecter au moins un minimum les droits humains et la santé publique, vraiment, ils en sont arrivés au bout du rouleau à ce point. Et puis, il faut repointer quelque chose du doigt avec l'affaire Nestlé. Quand on parle des eaux minérales filtrées illégalement, on parle de quoi ? On parle quand même, si on prend un peu de distance, d'un système où c'est l'industrie agroalimentaire qui contamine les sols au point où on retrouve dans des eaux souterraines qui sont censées être naturelles et minérales, des PFAS, vous savez, ces contaminants éternels, ces polluants éternels, des résidus de pesticides. Et au lieu de dire « ah oui, on a peut-être un problème avec notre système », Nestlé et l'État préfèrent mettre ça sous le tapis et utiliser des filtres illégaux. Ben bravo, mais sauf qu'on vous voit et ça ne va plus être possible en fait.
Allez, on se retrouve dans un instant, Karine Jacquemart. Ce sera la troisième partie de cette discussion que nous consacrerons intégralement aux messages des auditeurs et des auditrices, car ils sont ces messages très nombreux.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
C'est simple, vous avez un jambon frais qui arrive, qui a une taille relativement modeste par rapport à ce qu'on peut voir en supermarché. Et ensuite, vous avez des appareils, des appareils à aiguille, et puis un liquide sous pression qui est injecté. Liquide sous pression qui est un mélange alors d'eau et d'additifs. Puisque si vous injectez de l'eau sans additif, l'eau va ressortir. Donc vous mettez de l'eau plus des polyphosphates, des carbonates, acide citrique, du sucre, des stabilisants, des arômes, des colorants. Enfin, un cocktail. Chaque fabricant a sa recette, son cocktail, sa recette maison, son savoir-faire. Et vous arrivez au final à avoir un jambon qui est plein de flotte. Quand vous achetez 4 tranches de jambon, vous en avez une qui n'est que de l'eau. C'est phénoménal.
La voix d'un ancien trader agroalimentaire, Christophe Brusset, dans Secret d'Info, c'était en 2015. Karine Jacquemart, vous qui publiez avec Foodwatch France les dangers de notre alimentation. Une réaction sur ce qu'on vient d'entendre ?
Bon, moi, je crois que c'est assez clair. Et surtout, les toxicologues même alertent, parce qu'on se retrouve avec des produits alimentaires avec plusieurs additifs, plus des résidus de pesticides qui ne sont pas affichés, qu'on ne voit pas à l'œil nu, éventuellement des PFAS. Enfin, et donc, effectivement, le risque pour la santé quand on achète ces produits alimentaires, je ne veux pas faire peur aux gens, mais la réalité, c'est qu'il faut que ça s'arrête et qu'on n'ait pas à se poser la question quand on achète ces produits de savoir lequel est moins dangereux pour la santé. On ne devrait avoir que des produits sains.
Allez, on passe aux questions parce qu'elles sont très nombreuses. Jeanne demande, que peuvent les citoyens et les citoyennes pour reprendre le pouvoir sur leur assiette? Parce qu'évidemment, il y a un vrai enjeu sur les alternatives pour tout le monde, un enjeu de démocratie alimentaire, et vous l'abordez abondamment dans cet ouvrage.
Oui, j'ai tenu à ce que le sous-titre soit « Le combat pour l'égalité commence dans l'assiette ».
C'est même le sous-titre du sous-titre.
Oui, c'est le sous-titre du sous-titre, parce qu'en fait, il y a plein de points d'entrée.
C'est ça.
Je voulais pas faire peur aux gens tout de suite, mais en fait, c'est un vrai combat pour l'égalité et pour la démocratie. Deux choses principalement, vraiment pour simplifier, et évidemment, je développe beaucoup plus, et j'espère vous redonner de l'espoir et inspirer de l'action. La première, comme je disais, tenons tête. Donc, tout seul, on peut pas. Donc, on se réunit dans des associations. On fait aussi partie d'un collectif qui s'appelle le collectif Nourrir, qui a plus de 50 membres, associations de paysans, de consommateurs, sur l'environnement. Tout est lié. Donc, travaillons ensemble. Soutenez les associations que vous pouvez. Soyez bénévoles pour celles qui en ont besoin. C'est important. Et en plus, on se met en mouvement et on a l'impression d'être plus puissant, ce qui est vrai.
Et d'être
c'est
moins
important.
Seul.
Voilà. Et puis, évidemment, aussi par des dons quand vous le pouvez. La deuxième chose, c'est que individuellement, on peut faire plein de choses à l'échelle locale en lançant des choses et individuellement ou collectivement. Donc il y a des exemples, par exemple, j'adore moi voir le nombre de projets comme des épiceries sociales et solidaires, comme des expérimentations de la sécurité sociale de l'alimentation, comme l'association VRAC qui organise des groupements d'achat dans les quartiers précaires. Ça veut dire que tout le monde dit, bah, évidemment, c'est pas une fatalité, c'est pas parce qu'on est dans un quartier précaire qu'on peut pas acheter du bio, dans lequel je rappelle que le cahier des charges interdit les pesticides de synthèse, et qui permet d'améliorer cet accès. Et puis surtout, quand on écoute les gens qui mènent ce genre d'expérience ou qui les soutiennent ou qui les initient, mais en fait, ils retrouvent de la dignité, du lien social, de la diversité. On réapprend à se connaître et à s'écouter les uns les autres. Et j'ai envie de dire, dans le contexte politique actuel, où on a plutôt un gouvernement qui met la tête sous l'eau de millions de gens et où on se regarde tous en chien de faïence parce que finalement, bah, on a peur d'être déclassé et on ne sait plus trop s'écouter, ça fait du bien ces projets. Donc, regardez autour de vous, je suis sûre qu'il y en a, ou inspirez-vous d'autres régions, lancez-en. Mais... Et puis, chaque geste est utile. Que vous soyez, que ce soit dans votre entreprise, que ce soit effectivement dans une association, dans une expérimentation de démocratie alimentaire, n'importe quoi, tout compte pour vous mettre en mouvement et défendre vos droits.
Dans tous les exemples que vous nous citez, Karine Jacquemart, la sécurité sociale alimentaire, vous y croyez beaucoup ? L'alimentation, vous y croyez beaucoup ou pas ?
Alors justement, les gens qui en parlent, parlent d'expérimentation du principe de sécurité sociale de l'alimentation. Et donc ça, j'y crois parce que les principes, c'est quoi ? Les principes, c'est du coup de remettre en pot commun, en fait, des moyens communs, avec ceux qui ont plus d'argent, qui en mettent plus que les autres, etc. Et de redistribuer et surtout de recréer du lien social et de la démocratie, puisque le principe fondamental, c'est aussi que les gens membres de ces comités, de ces expérimentations, décident entre eux de façon démocratique quelle alimentation ils vont acheter et auprès de qui. Et donc, ça recrée du lien, ça recrée de la compréhension, ça recrée des options en dehors de nos magnifiques supermarchés qui aujourd'hui imposent leur offre biaisée.
Et Juliette demande, puisqu'on a beaucoup de réactions autour du cadmium, autour de l'article du Monde dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'il y en a dans les produits bio ? Il y a énormément de questions à ce sujet. Et si la conversion est récente, est-ce qu'ils peuvent encore capter le cadmium qui s'accumule dans le sol ?
Alors non, justement, le cadmium, comme c'est un engrais chimique par définition, c'est exclu du cahier des charges du bio, donc il n'y en a pas dans le bio. Et d'ailleurs, c'est hallucinant de voir que non seulement on a la loi du plomb dont on parlait tout à l'heure, mais que en plus... la ministre de l'Agriculture et a en plus pour projet annoncé publiquement de réduire de plusieurs millions d'euros le soutien à la bio en France. Donc on continue à contaminer les sols, à exposer les consommateurs, les agriculteurs à des risques pour la santé, et en plus on réduit le bio, alors que le bio, bah, y a encore des progrès à faire sur le bio, mais enfin quand même il y a 48 additifs autorisés alors qu'il y en a 330 dans l'alimentation industrielle, pas bio, et il y a une interdiction de pesticides chimiques. Donc il y a moins d'exposition de risques pour la santé.
Éric demande que faire pour lutter justement contre les politiques qui n'écoutent que les puissants lobbies de l'agriculture productiviste. Vous en avez déjà parlé un petit peu, mais c'est pour nous faire un résumé.
Oui, mais tout à fait. Mais d'abord, on est encore en démocratie et j'espère que ça va durer. Donc reprenons le pouvoir, encore une fois en les rendant comptables et en les obligeant à rendre des comptes de leurs décisions. Donc la mobilisation citoyenne, ça marche et parfois ça marche pas aussi vite qu'on voudrait. Mais moi j'entends dans les ministères, on peut pas ignorer la pétition pour telle chose ou telle chose, parce qu'on voit bien qu'il y a du monde. Quand moi j'arrive dans un ministère, c'est pas Karine Jacquemart qui les intéresse, c'est combien de citoyens je pèse. Eh bien 500 000 aujourd'hui, et ça ne fait que commencer. Et en fait, reprenez le pouvoir aussi auprès de vos députés et sénateurs, sénatrices sur le terrain, parce qu'en fait, eux sont aussi intéressés par les élections locales, et je rappelle qu'il y a des municipales qui arrivent en 2026. Voilà, moi je suis apartisane, je dis juste que les responsables politiques servent un peu l'intérêt général, parce que là il y a une cocotte minute, les gens sont en colère, ils en ont marre, et il serait temps de montrer que l'intérêt général est au cœur des sujets.
Alors, je vois déjà plein de messages qui vont nous dire Karine Jacquemart, ministre, parce que c'est assez régulier, mais non, trêve de plaisanterie, est-ce que ça pourrait vous intéresser d'avoir un rôle vraiment au sein d'un gouvernement, où c'est hors de question? C'est souvent la réponse qu'on a, d'ailleurs, de la part de nos invités.
Écoutez, moi,
je leur dis, il faut aller maintenant aux manettes.
Moi, je défends l'intérêt général, et je trouve que l'endroit où je suis de la société civile est un bon endroit, parce que, quelles que soient les personnes au gouvernement, il faudra des contre-pouvoirs indépendants, et j'aime cette indépendance et représenter les citoyens et les citoyennes.
Et puis enfin, Bernadette nous dit, les traitements contre le cancer coûtent une fortune, on cherche de l'argent pour la sécu, pourquoi ne pas faire participer l'agroalimentaire ?
Oui, alors il faudrait peut-être commencer par arrêter de donner trop d'argent public à l'agroalimentaire, puisqu'en fait, il y a des chiffres qui sont phénoménaux aussi, hein. Même d'un point de vue économique, ce système, il a un coût phénoménal sur la société, et il y a une étude qui s'appelle l'injuste prix de l'alimentation qui est du Secours catholique, les CIVAM et d'autres associations en ligne gratuitement, qui a estimé à 48 milliards d'euros par an qui est donné par l'État chaque année à ce secteur pour les soutenir. Vous avez bien compris, pour soutenir un secteur qui quand même est destructeur pour l'environnement et pour les gens, et 19 milliards d'euros de réparation environnementale et de santé. La FAO, elle, a estimé 120 milliards d'euros par an, le coût sur la santé de notre système alimentaire aujourd'hui à la dérive. De l'argent, il y en a. Encore faut-il voir où on le met, si on fait de la prévention, et pas simplement sur des entreprises qui n'ont aucune contrainte en face.
Karine Jacquemart, merci beaucoup. Les dangers de notre alimentation, c'est aux éditions Payot. Vous serez également samedi à l'Académie du Climat, c'est
absolument,
à Paris,
ouais,
pour rencontrer le public et discuter autour de ces thématiques. Merci à Joseph Ascal qui a préparé aujourd'hui ce dossier. Merci à vous.
Merci beaucoup.